Qu'est-ce qui vous a raccroché à la vie et où avez-vous trouvé l'énergie pour suivre?
Qu'est-ce qui vous... Dans les camps, qu'est-ce qui vous raccroche à la vie? Qu'est-ce qui vous a fait tenir, survivre finalement?
Et chacun peut avoir son explication.
Raccroche à la vie. D'abord, il faut avoir une croyance. Pas une croyance religieuse. Quelque chose à... Une chose à laquelle on croit. Politique, philosophique, humaniste, ce que vous voudrez. Celui qui a été ramassé sans raison dans une rafle, il est comme moi. Il faut avoir ce que j'appelle, moi, la rage de vivre. C'est-à-dire, être toujours à l'affût pour ne pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Ensuite, qu'est-ce qui vous a permis de survivre? Cette solidarité entre nous, pour vous expliquer la joie. Cette résistance, qu'est-ce qui nous a permis? Ça a été cette volonté. Cette volonté, malgré notre décrépitude, malgré notre avilissement voulu par le bourreau, continuer à mener une espèce, une sorte de résistance dont on vous a parlé amplement, une sorte de guerre. Rien que pour ça, nous voulions vivre. C'est une raison de vivre. Une raison qui pouvait vous mener à votre extermination. Le désir de revoir la famille. Dans, on en parlera peut-être plus tard, dans les marches d'extermination, quand tout craque, le copain qui te dit « Pense à tes parents », ça y est, on se raccroche, on continue. C'est tout ça qui nous a permis de survivre.
Oui, sans doute faut-il y ajouter un autre facteur, celui de la chance. La chance à l'égard de laquelle nous sommes méfiants, parce que nous ne pouvons pas exactement la définir. Nous ne pouvons pas savoir quand elle est intervenue dans notre survie. C'est une démarche obscure ou accidentelle. Je voudrais vous citer un cas où la chance, et la chance seulement, jouait un rôle déterminant. Celui auquel il était procédé périodiquement,
qui
non, ça va marcher, ça va marcher. C'était celui que chacun redoutait, celui de la sélection. De quoi s'agissait-il? Nous étions tous des esclaves. Nous étions tous amenés à la mort essentiellement par le travail et les conditions général auquel nous étions soumis. Naturellement, il résultait rapidement un dépérissement, un affaiblissement, une déchéance physique et parfois également morale. Et manifestement, dans nos rangs, malgré la solidarité, des gens ont conduit de dépérir. Mais ils étaient eux aussi astreints au travail. Et manifestement, ils ne pouvaient plus poursuivre. Ils étaient repérés par les forains par terre pour des capes. Et que se passait-il ensuite? Rassemblement, tous les dépendants sont alignés, la tête rasée, bien sûr, pour ma part, j'ai été rasé 32 fois, au garde-à-vous, et devant eux défile le commandant du camp, sanglé dans son uniforme de grand apparat. Les têtes d'hommes, les essais à tête de mort apparentes sur ses revers de veste et sur sa casquette. Il est flanqué de deux individus en blouse blanche, dont on dit que ce sont des médecins, en fait ce sont comme des assassins. Et il parcourt les rangs, le commandant en tête, car c'est lui qui prend la décision, et non pas les médecins. Et il va désigner ceux qui vont devoir s'extraire des rangs. Et ils marchent. Doe ik hem maar. Doe ik hem. Doe ik hem. Doe, nee, doe. Aber stel. Dat wil dire quoi? Je dois s'en dérange, reviens, et fais vite. Ceux qui venaient d'être désirés étaient inexorablement promis à une mort prochaine. Mais le doigt qui s'est détourné a sauvé celui qui était initialement désigné. Et voilà un exemple précis de la chance. La chance pouvait se résumer à autre chose. Ça pouvait être simplement une chaussure. Il vous l'a dit, Jacques Lebrun, de mauvaise colasse en squelette de bois, avec un dessus en toile. Si ce dessus en toile craquait, et ça se produisait inexorablement, vous étiez marché à cloche-pied, vous étiez incapable de soutenir la marche, et vous alliez, de ce coup-là, de ce fait-là, recevoir coup sur coup, être le canard boiteux du moment. Vrai aussi pour le numéro qui se détachait de la vareuse, car nous n'avions ni fil ni aiguille. Et se les procurer, c'était donner la moitié d'une boule de pain, et encore fallait-il trouver ce filet, cette aiguille. Et le fait d'avoir un numéro mal assujetti pouvait être suffisant pour recevoir un coup de goumi, un coup de matraque, et le premier coup, en certains cas, pouvait être fatal.
Une autre question, s'il vous plaît.
Dans quelles circonstances se passe la libération du camp ?
Dans quelles circonstances se passe la libération du camp ? Question était prévue à propos de, éventuellement d'une tentative d'évasion du camp. Est-ce que certains ont tenté de s'évader des camps de concentration ?
Bon, que cette question ait été posée est bien naturelle. Dans la mesure où on évoque un lieu d'enfermement, prison ou camp, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de savoir, y a-t-il un moyen d'en sortir ? Y a-t-il un moyen d'échapper au sort avant d'être exterminé ? Cette question est posée. Et la réponse est non. La réponse est non, il n'était pas possible de s'évader d'un camp de concentration. Un exemple parmi d'autres. Le camp de Sachsenhausen. Je voulais très rapidement, trop rapidement sans doute, montrer, je vous ai indiqué comment il était constitué. Son enceinte, je vous le rappelle, 2 mètres 10 d'une muraille, barbelée électrifiée, des chevaux de frise, une zone neutre où on vous tire à vue, 9 miradors avec 2 hommes équipés de mitrailleuses, 1 mitrailleuse centrale qui vous prend en filade des baraquements disposés en éventail, vous l'avez retenu. Déjà, partir de ce camp est sans doute un problème, ça. En ce sens qu'on ne peut pas en sortir. Que pouvait-il se passer dans le moins pire des cas ? C'était qu'à l'occasion d'un travail à l'extérieur, car les déportés pouvaient être appelés sur n'importe quel chantier extérieur, notamment à la suite d'un bombardement, lorsqu'il s'agissait, travail périlleux entre tous, de détecter et de déterrer les bombes à retardement. Combien de camarades sont morts dans ce travail ? À l'occasion d'une sortie de ce type-là, il pouvait se produire, mais ça relève un peu de l'imagination, que tel détenu trempe la vigilance des capots et des SS en armes, car nous sommes à l'extérieur du camp. Donc la surveillance est redoublée. Qu'il trempe la vigilance, qu'il se réfugie dans une cavité de bombe, qu'il laisse partir le groupe et qu'il se retrouve. Virtuellement, il est libre. Il est seul. Il n'est plus sous la suggestion des SS et des capots, il est libre. Mais il va mourir. Il n'est pas libre dans le temps. Il pèse 42 kilos, il en pesait 68. Il est maigre, il est hâble, les yeux au fond des orbites, les pommettes saillantes, les épaules voûtées, osseuses, les omoplates qui se soulèvent comme des arêtes de poisson. Cette tête-là, crasseux, repoussant, il n'a aucune chance de survivre. Le premier Allemand civil qui me rencontrait va être le premier soit à organiser un lynchage, soit, c'est ce qui fut fait plus communément, à être dénoncé ou amené même à la police qui va le ramener au camp où il sera immanquablement pendu. En admettant qu'il ne se soit pas trouvé en but d'un tel civil et qu'il ait progressé quelque peu, il a cette défroque rayée qui le désigne comme étant un bagnard. Et oui, un terroriste, c'est bien vrai. Et oui, il ne parle pas l'allemand, sauf exception. Affreux, effrayant, ne parlant pas l'allemand, n'ayant aucune carte, n'ayant pas d'argent, n'ayant pas de papier, il est inexorablement proche de la mort. C'est en quoi, pour nous résumer, à la question « Pouvez-vous vous dévêter le camp ?», la réponse est incontestablement non. Je suis resté ici 28 mois en train de l'opération. Je n'ai été témoin que d'une seule évasion. En fait, ce n'est pas une évasion, c'est une sorte de combinaison qui s'est établie entre un déporté allemand, qui lui, en raison de sa qualité allemande et de son ancienneté au camp, avait ses cheveux. Il était correctement nourri, il avait pu, par un civil allemand connaissant sa famille et venant de Berlin chaque jour, il avait pu obtenir, en fraude bien sûr, des vêtements civils. À l'aide de ces vêtements civils et de papier, il avait désormais une stature normale et quasiment un statut normal. Et c'est ainsi qu'il a pu rejoindre Berlin quelques mois avant la libération du camp. C'est le seul cas dont j'ai eu connaissance. Autre question.
Une autre question, s'il vous plaît. Peut-être sur la libération du camp, cette fois. Vous pouvez, oui. Alors, les conditions dans lesquelles se sont passées la libération du camp où vous étiez.
Libération. Attends, excuse-moi. Est-ce qu'il y a une question particulière pour les marques de la mort ?
Non, c'est conclu dedans.
C'est conclu dedans. Libération
des marques de la mort. Libération du camp. J'étais en commando au confrère de la partie de l'Auvergne. Par le transport de l'Auvergne. On entend la canonnade des ruches. 50 cm de neige. Avec les bois des chalets, on a fait des traîneaux sur lesquels on a embarqué tout le matériel des SS. Et on est parti le 31 janvier, 7h du matin. On est arrivé à 9h du soir. En tirant les charges de traîneau, à tenir comme des maîtres. Il fait un froid extrême. Les gens, le pont étant engorgé, ils traversent là-bas, traversent la rivière, les attelages traversent la rivière sur la glace. Pour vous dire le froid extrême du pays. De là, on a passé un jour le train qui nous emmène à Buchenwald, ce qui me concerne. 3 mois et demi. Buchenwald. Je vous ai dit un chalet par personne. On nous met au petit camp, la quarantaine. Le reflux des détenus est tel que dans le petit camp, nous sommes 4 pour un chalet. On passe la nuit dans les conditions que je vous ai expliquées, assis, le dos appuyé contre un démontant, et on passe la nuit là, comme je vous ai expliqué. Le lendemain, on va au travail, après une nuit d'insomnie, de tracas, de... Comment je pourrais dire ? C'est démoralisant, sinon. Ça vous met à zéro, le moral. Le lendemain matin, on repart, on est affecté à une équipe de remise en état de la gare de triage de Weimar. La journée commence. Les Américains arrivent. Je suis foutu, on me met dans un wagon de charbon belge. Qui au sol a surpassé beaucoup plus petite que les charbons, que les trains de marchandises, les wagons de marchandises. 80 là-dedans. Un mec au ravitaillement. J'ai pu m'asseoir que le deuxième jour. On s'assoit sur les camarades morts. pas de ravitaillement, pas d'eau. On tord la veste qui est trempée par la pluie. On exprime l'eau, on la boit. Et si on n'a pas ça, et puis j'en ai vu devant moi, boire leur urine. La boîte à conserve urinée, boire leur urine. La faim, on s'habitue, on vit avec. La soif, c'est insupportable, ça vous tue. Ça vous tue en 2, 3, 4 jours, vous avez oublié. De là, un passage à niveau, en territoire tchèque, elle nous fait descendre, 2 jours de marche, pendant lesquels ces êtres affaiblis qui ne se traînent plus, les plus handicapés s'arrêtent à cheville du bas de la nuque. On couche dans un hall de montage d'avion à côté du camp de Fossembourg. Fossembourg, par les photographes. On y passe 3 jours. On ne s'occupe pas de nous, on ne change pas la matricule, rien. Il paraît qu'on a eu le soupe. Moi, j'avais. De cette période-là, je n'ai qu'un bague souvenir, j'étais en état second. Et puis, 3 jours après, les Américains sont là. Pendant tout ce temps, on entend la canonnade, les rumeurs de la bataille. On est survolé par des avions de reconnaissance. Les bourreaux n'ont plus d'aviation. Et on marche, et toujours plus vite, toujours plus vite. Les SS, les chiens qui mordent, les SS qui nous couvrent d'injures, qui nous bousculent, qui nous fusent des coups. On marche, on marche. Chaque pas est une souffrance. Imaginez-vous que chacun, je prends mon camarade témoin, a perdu, on vous l'a dit, entre la moitié et le tiers de son poids. Nous ne sommes plus qu'un zombie ambulant, perclus de douleur. Chaque pas est une douleur, un pas, encore un pas, et des douleurs, et encore un pas, 1 minute de gagner, et puis 2. Et le bruit de la canonnade qui se rapproche, et chacun de ces pas, et chacune de ces minutes de gagner au prix de réelles souffrances, lui nous rapproche de notre extermination ou de notre libération. Là, c'est pas la question. Tout à l'heure, on vous parlait de chance. Un de nos camarades n'en peut plus. On le prend en charge. Nous sommes 3 à nous relayer pour chacun d'entre nous du corps le traîne. Mais nous ne sommes pas non plus des surhommes. Compte tenu de notre état de fatigue, on régresse dans la colonne. Et on arrive en queue de colonne, je vous l'ai montré tout à l'heure dans une gravure, où il y a le balai qui liquide les traînards. Et où ceux qui en cours de colonne s'arrêtent, n'en peuvent plus, une balle dans la nuque, au début dans le fossé, après les laisser sur place, on enjambe. Pas de nourriture. Tout à l'heure, on vous parlait de chance, que ce n'est pas prévisible, que c'est pas, qu'on ne peut pas tenir compte. La chance, regardez les détours de la chance. On traîne le petit Paul toute une matinée, on arrive en queue de colonne, de notre colonne. On sent qu'on va y passer tous les 4 ensemble. Mais personne ne se décide à lâcher le copain. C'est là que je dis que la solidarité devient le don de soi-même. Et tout d'un coup, une brute, exacerbée par le fait qu'il sent sa fin prochaine, lui aussi. Il va falloir qu'il rentre des comptes. Il rentre. Ça a exacerbé sa barbarie. Il nous arrache Paul, une balle dans la nuque, dans le fossé. Il ne s'est pas rendu compte, ce barbare-là, qu'en exterminant notre camarade, il a libéré 3 autres, qu'on a essayé à regagner le début de notre colonne, et qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous.
Merci. Les marches de la mort ont été incontestablement la période la plus tragique, la plus meurtrière de notre déportation. Elles en ont marqué la fin. Rares sont les camps où les alliés sont entrés pour libérer les déportés. Ce fut le cas partiellement le 11 avril 1945 à Buchenwald. La plupart des déportés de Buchenwald avaient déjà été évacués dans des conditions identiques à celles qui viennent de vous être rapportées, mais un certain nombre ont été libérés sur place sans dommage, ayant d'ailleurs participé à leur propre libération à l'aide d'armes qui s'étaient constituées avec des éléments en provenant des usines d'armement où ils travaillaient. À Saxe-Lauzel, notre camp, en mi-avril 1945, nous entendons nettement, nous sommes qu'à 30 km de Berlin, ça a déjà été dit, nous entendons nettement la canonnade qui s'enfle chaque jour davantage. C'est l'armée rouge, l'armée soviétique, qui encercle Berlin. Tout le monde a conscience qu'on s'achemine vers la fin. Et quelle fin ! Le camp est surpeuplé. Depuis le bombardement du 10 avril 1945, bombardement qui détruisit totalement la briqueterie dont je vous ai parlé, la fonderie dont je vous ai parlé, et le petit camp où dormaient les détenus travaillant dans ces deux usines. Rasé. Des centaines de morts, les autres rapatriés amenés au grand camp. Le camp compte 36 000 déportés. C'était l'évaluation qui a été faite. Il en comptait 45 000 deux mois plus tôt. Mais en prévision de cette fin du régime, les SS avaient déjà délesté l'effectif, d'une part en massacrant 3 000 déportés à la station Z, dont vous avez conservé le souvenir pour trouver une explication, mais déportés également vers des mouroirs comme Bergen-Belsen ou Mauthausen, où ils étaient placés dans des blocs sans nourriture ni eau et où ils mouraient évidemment. Vient le samedi 21 avril 1945. Le samedi 21 avril, il règne dans le camp une atmosphère curieuse. Il n'y a plus de discipline, mais les coups de feu retentissent. Il n'y a plus d'appels. On sait que les derniers déportés qui ont franchi la porte d'entrée n'ont pas été immatriculés. Les gens dorment où ils peuvent. Il n'y a pas d'affectation précise. C'est un climat dantesque qui doit déboucher sur une solution. La solution, c'est quoi ? Le samedi 21 avril est consacré toute la journée à l'évacuation du camp. 33 000 hommes. Et nous savons tous, passant la porte de sortie, que nous laissons là 3 000 camarades. Ils sont dans les révires. Les révires, ce sont les infirmeries du camp, où des camarades détenus, médecins, infirmiers, brancardiers, font des prodiges, ont fait des prodiges, et en font encore, pour sauver les malades, les blessés, les tuberculeux, les diphtériques. Et nous savons que ces camarades restant au camp risquent d'être passés au lance-flammes, c'est la thèse à laquelle pensent le plus nos camarades allemands, camarades politiques, qui connaissent bien les SS, et qui sont convaincus que ces premiers camarades vont être exterminés. Nous franchissons 500 par 500, dotés d'une boule de pain pour deux ou trois, je ne sais plus, c'est sans importance, et puis une tranche de saucisson, et nous cheminons à la hâte, serrés de près par les SS et leurs chiens. Et nous cheminons vers le nord-nord-ouest, la Baltique. Dès les premières heures des morts, car ces êtres dont vous imaginez mieux maintenant qu'il y a deux heures, dans quelles conditions physiques ils se trouvaient, bon nombre d'entre eux n'étaient pas en mesure de soutenir cette cadence forcée. Et bien que prenant sur eux les ultimes ressources pour marcher, donc pour survivre, certains rétrogradaient. Et, comme Jacques vous l'a dit, ils étaient atteints d'une balle dans la nuque, ça a été fait. Au début, la mortalité fut modérée, si on peut parler de modération pour la mortalité, si bien que le temps était pris de dégager les cadavres et de les déverser sur le bas-côté. Ensuite, les cadavres furent si nombreux qu'ils restaient sur la chaussée. Si bien que nous enjambions colonne après colonne les camarades abattus des colonnes précédentes. Cette situation allait durer 12 jours. Nous avons connu une brève halte dans un bois, qui est un haut lieu de la déportation, le vélo, où nous avons perdu là aussi des centaines de camarades à l'occasion d'une halte, qui ne fut d'ailleurs pas l'occasion d'un repos pour ceux qui ont connu cette halte de 2 jours et 2 nuits. La faim, le froid, la soif, et aucune information sur le sort qui allait nous être réservé. Des camarades meurent, une fosse commune est creusée, des centaines de morts s'y accumulent, des cas d'anthropophagie sont signalés. Sur ces corps squelettiques, des lambeaux de chair sont prélevés. Ce fut là le crime des SS et non pas le crime des êtres affamés au fond de la détresse qui ont commis ces actes d'anthropophagie. Un crime SS. Une lueur d'espoir, cependant. 11 camions de la Croix-Rouge, camions blancs, avec un personnel visiblement étranger, la Croix-Rouge internationale, saluée par des vivas, non pas parce qu'elle est susceptible d'apporter, nous pensons bien, nous espérons bien, qu'elle amène des vivres, des colis, mais déjà avant même qu'il y ait cette notion de distribution de vivres, le fait que se trouve auprès de nous, à portée de vue, des camions, un convoi d'organisations étrangères libres, nous paraissait déjà d'un bon augure. Quelques cuillerées de gruau, de soupe en poudre, quelques galettes ont été distribuées. En bon nombre de cas, et c'est un souvenir qui devait marquer dans mon esprit, des camarades exténués, arrivés au dernier stade de leurs possibilités physiques, étaient accoudés à un arbre, étaient reposés sur le bord d'un arbre. Certains autres tentaient de les nourrir avec quelques galettes, malgré leur faim, malgré cette famine qui les ravage depuis des mois ou des années pour certains, ils refusent la galette. Ils ne sont plus aptes à manger, la nourriture leur est devenue inutile, ils vont mourir. Le dimanche 29 avril, nous avons repris la route. Dans des conditions tout aussi épouvantables, alors que, nous l'avons su plus tard, une sorte de convention s'était établie entre la Croix-Rouge et les SS pour que les tueries cessent. Les SS ayant reçu en échange une dotation de colis qui ne leur était pas destinée. Mais l'expérience fut rapide, les conditions furent les mêmes après qu'avant. Et la dernière étape, et durant la dernière période, ce fut 3 jours de marche, les cadavres s'entassaient davantage. Et là, un souvenir personnel que je considère comme étant une défaite s'est produit. Un camarade, un excellent camarade du Nord, un mineur que j'avais connu à Compiègne, avec lequel j'avais fraternisé, et puis nous se trouvait séparés au camp et retrouvés sur la marge. Il était affreusement maigre, la longueur de son corps ajoutant encore à sa maigreur. Il n'en pouvait plus. Alors je l'ai invité à s'accrocher à l'épaule. Nous avons marché, nous avons maintenu à peu près, mais à quel prix ? Nous avons maintenu à peu près notre position dans la colonne. Mais visiblement, nous régressions. Et nous ne pouvions que régresser. Car quand on a peine à mettre un pas devant l'autre soi-même, on a beaucoup de peine, vous l'avez déjà compris, au travers du récit de la Grébole, à entraîner quelqu'un qui a pourtant grand besoin de votre aide. Et ce camarade Chtimi, pour lequel j'avais beaucoup d'affection, m'a dit, j'arrête Guy, merci. Il a lâché la prise, il est tombé. La colonne a progressé, et quelques instants plus tard, j'ai entendu un coup de revolver, je ne me suis pas retourné, la mort du Chtimi avait sonné. Au cours de cette marche, nous avons perdu 11 000 hommes sur 33 000, donc un tiers. Et certains ont été libérés à Schwerin,
qui est la capitale du Mecklembourg, le Land le plus au nord de l'Allemagne. Et parlons-en, cette libération ne donna pas lieu à des manifestations de joie, ce fut simplement un immense soulagement. Le fait de nous sentir hors des coups, hors des insultes, et peut-être désormais en position d'être un peu nourri. Il nous manquait depuis des mois et des années. Mais de viva point, de manifestation de joie aucune, parce que nous étions tous marqués par cette marche qui nous avait imprégnés de ces visages de nos camarades torturés, ces visages offerts au ciel que nous enjambions pour lesquels nous ne pouvions plus rien. Et c'est ainsi que les choses se sont poursuivies. Et c'est ainsi aussi que des camarades sont morts une fois libres. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait l'effort de tenir. L'effort, la rage de vivre dont parlait Jacques Rêve. Et se sentant libres, ils n'ont plus vu l'utilité de soutenir cet effort, ils sont morts. Voilà ce que fut le drame de la libération des camps.
J'ajouterai simplement un mot à l'exposé précédent que j'ai fait. La dernière marche de la mort que nous avons fait du camp de Flossenbürg, nous étions 15 000, répartis en tronçons de 500. Sur les 15 000, on a marché 3 jours. En 3 jours, on a dû faire à peu près 80-90 km. En 3 jours, sur 15 000, 8 000 ont été exterminés, plus de la moitié, pour vous dire dans quel état étaient les survivants.
À préciser, ne serait-ce que pour honorer leur mémoire, que notre marche, dont nous avions observé qu'elle se dirigeait vers le nord-nord-ouest, donc vers la Baltique, dans un dernier temps, nous étions convaincus, et c'était vrai, qu'on nous dirigeait vers Lübeck. Lübeck, c'est effectivement un port sur la Baltique. Nous avons été libérés le 2 mai. Certains n'ont été libérés que le 3 mai. Nous étions encore à 80 km de Lübeck, mais les Russes et les Américains ayant fait leur jonction à Schwerin, nous avons été libérés de cette façon, et les SS n'ont pas pu nous conduire plus longtemps. Or, vous allez voir ce qu'était l'objectif des SS. Le 3 mai, au port de Lübeck, des prisonniers, des déportés du camp Neuengamme, proche de Hambourg, assez proche donc du camp de Lübeck, sont embarqués de force sur des bateaux qui battent pavillon nazi de toutes parts. Ces bateaux, notamment un, le plus important, le cap Arcola, sont dirigés dans la rade de Lübeck. Ils sont naturellement, et c'est l'objectif des essais, ils sont naturellement la cible de l'aviation alliée, qui est omniprésente. Ils sont bombardés, ils sont mitraillés, ils sont incendiés. C'est la mort immédiate pour nombre de déportés. D'autres vont être engloutis dans les cales, d'autres vont devoir se jeter dans les eaux glaciales parce que c'est un réfugié sur la coque renversée. Il ne peut plus s'y maintenir parce que la chaleur rend la tôle intenable. Il se jette à l'eau. Ceux qui peuvent nager, nous ne sommes qu'en début mai, et les eaux de la Baltique ne sont pas tièdes à cette époque. Ceux qui peuvent nager se dirigent naturellement vers la rive, à 1, 2 ou 3 km. Certains pensent pouvoir, malgré leur état, et toujours cette rage de vie. Nage. Difficilement. Ils nagent. La plupart d'entre eux vont être massacrés à coups de rames ou à coups de fusil mitrailleur par des SS, mais aussi des Hitlerjugend, des jeunesses hitlériennes, des soldats de la Wehrmacht, des soldats de la Luftwaffe, de l'armée de l'air, des marins de la Kriegsmarine, qui concentrent leur feu sur ces malheureux qui tendaient vers la liberté et qui vont mourir. Alors que sur les quais, à cette heure-là, sur les quais de Lübeck, les premiers blindés anglais libérateurs, donc Paris. Ils arriveront trop tard pour sauver 6400 hommes. Autre question.
On arrive au terme des trois heures.
Vous n'avez pas de questions sur son retour, sur la réadaptation.
Est-ce que vous acceptez de dépasser?
On a fait les trois heures. Peut-être vous avez des questions.
Ouais.
C'est pour ça.